Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine dans Évasion Romanesque pour vous faire découvrir le roman intimiste d'André Bucher, Déneiger le ciel. Né en 1946, il passe son enfance en Alsace, puis part habiter dans le Doubs avec ses parents. À partir de ses 16 ans, il décide de voyager dans la pure tradition beatnik. Pour survivre, il exerce de nombreux métiers proches de la nature, bûcheron, pêcheur, ouvrier agricole. Dans le même esprit, en 68, il participe au soutien des réfugiés espagnols. C'est à cette époque qu'il commence à écrire des poèmes. En 72, il s'installe dans la Drôme avec sa famille et entreprend un gros travail de reboisement en parallèle à son activité d'agriculteur biologique. Et c'est dans un esprit proche de la nature qu'il écrit ses romans, dont celui-ci, Déneiger le ciel. David, la soixantaine, est veuf depuis longtemps. Sa fille, Noémie, lui apprend qu'elle se sépare de son mari. Sa relation avec Muriel est plus une consolation mutuelle qu'une vraie histoire d'amour. Depuis la disparition de sa fille, Martine, elle n'est pas franchement prête à s'investir auprès de qui que ce soit, même avec David, qui chaque hiver, lorsqu'il déneige leur petit village près de Sisteron, prend le temps de s'arrêter chez elle pour s'enquérir de ses nouvelles. Cet hiver est différent. Il est précoce et promet d'être rude. Et David ne pourra pas déneiger, son tracteur est en panne. Pourtant, un éclat de joie vient éclairer cette morne journée. Antoine, un gamin qu'il a vu grandir et qu'il considère comme son fils, annonce son arrivée. Mais les routes sont dans un tel état qu'il ne trouve aucun transport pour le mener jusqu'à la maison de David. Qu'à cela ne tienne, il viendra à pied. Inquiet de cette décision, malgré le froid, la neige qui continue de tomber et la nuit qui s'approche, David prépare un sac et part à sa rencontre. Pendant ce long chemin de solitude, David délire, hallucine et fait un véritable examen de conscience. Il parle aux morts, aux disparus, croise quelques animaux, enfin, le croit-il. Et une fois Antoine récupéré, les aventures continuent. David a croisé des génisses dans un pré, seul et sans nourriture. Il doit les mettre à l'abri, leur venir en aide. Lorsqu'ils atteignirent le champ en bordure de route, David s'immobilisa. Il entreprit de compter les génisses. Couché sur le ventre, petit monticule se profilant sur cette banquise avachie, bientôt sur le point de se sédimenter, elle ne bougeait plus. Il en dénombra 13. « On ne peut pas les abandonner !» il s'exclama. « Viens, on va les chercher !» Sur la chaussée, vu que le chasse-neige était passé il y a maintenant... quoi, 2 ou 3 heures, il restait tout au plus une dizaine de centimètres. Elle pourrait suivre sans trop de mal, mais c'était une autre affaire de les sortir du champ. Il se ravisa. « Reste devant, Antoine !» il lui intima. « Je vais les attrouper. Dès qu'elles seront sur le dur, tu démarres, attends pas. Moi, je fermerai la marche. »« Tu veux les ramener à la maison ?» demanda Antoine incrédule. « On improvisera, ne te bile pas pour ça, j'ai mon idée. » David vérifia sans plus tarder ses craintes. Il s'enfonça jusqu'aux genoux. Il ne voulait pas les effrayer, aussi il s'approcha péniblement en les contournant. Les bêtes l'accompagnèrent du regard dans son mouvement d'encerclement. Lorsqu'il atteignit le haut du champ, il reprit calmement son souffle, puis il les rassembla, pataugeant autour d'elles, leur parlant doucement. « Vous inquiétez pas, mes belles, on va y arriver. Là, tout doux, allez, debout, c'est bien !» David sourit. Elles avaient l'air de comprendre ce qu'il leur demandait. Elles se redressaient, un peu ankylosées, l'une après l'autre. David voyait la neige se détacher de leur robe brune et la meneuse de cette petite bande se mit en branle, avec précaution. La poudreuse leur arrivait au poitrail, mais elles avançaient comme Antoine et lui, synchrones, l'une dans les traces de l'autre. Lorsqu'elles grimpèrent le petit talus pour accéder à la route départementale, Antoine, comme convenu, se mit à cheminer, ouvrant le bal. « Un petit miracle !» se dit David, tout réjoui. Il restait 1,5 km à accomplir avant d'arriver à son village. Il connaissait une vieille grange à foin pratiquement vide après le pont et le second pâté de maison sous la cascade. Elles seraient un peu serrées, mais elles auraient le gîte et le couvert. Demain, il préviendrait le fermier ainsi que le propriétaire du fenil. C'était une étrange impression que cet homme aux allures de héron précédant 13 génisses à la queue leu-leu avec un vieil ours blanc pour clore le cortège. Ça se passait en silence. Un défilé d'ombres chinoises sur un écran géant, chacune d'elles, de par sa queue en mouvement, servant d'essuie-glace à l'autre, et tout ce petit monde semblait accordé. David fut enclin de croire qu'il savait parler aux vaches. Parvenu à l'entrée du village, à l'intersection des gorges, avant le pont et la grange pressentie, David hésita, remarquant le large sillon occasionné par le chasse-neige. D'après l'angle incliné des congères déblayés dans ce virage, il put vérifier que Serge était redescendu du hameau de Villevieille. un peu trop rapidement à son goût. Il n'avait sans doute pu aller jusqu'au bout et devait donc en être à batailler à présent sur le chemin conduisant à sa ferme. Ce type était courageux. Il ne renonçait pas facilement. David se plaça en tête, trottinant avec son équipage insolite, comme s'ils étaient en excursion champêtre. Antoine fermait la marche. Il ne se posait pas de questions. Les vaches obtempéraient, dociles, confiantes même. Ils firent halte devant le cabanon au bord du ruisseau. David ouvrit le ventail de la grange. La génisse meneuse se posta juste en face, les pattes bien écartées, l'observant en train de manœuvrer. « Je ne peux pas rester, je suis encore loin d'avoir terminé la journée, » s'excusa David. « Vas-y, ma belle. Qu'est-ce que tu complotes ? Allez, rentre !»« Bon, ça va, j'ai compris. » Il alla chercher une botte de foin, puis s'adressa à Antoine. « Regarde donc si tu ne trouves pas un seau ou un récipient quelconque parmi le foutoir là-bas dans la pentille à côté. Elles meurent de soif, mais elles ont bien fait de ne pas manger la neige. » David défit la botte. Il promena quelques brins de fourrage devant le museau circonspect de la cheftaine des génisses, tout en reculant petit à petit, au fond du fenil. Elle le suivit. Du coup, les autres se décidèrent. « Ouf ! Une bonne chose de faite !» s'écria David en ressortant. « Si on buvait un petit coup, non, tu crois pas ? De l'eau ou une petite gnôle ?» Antoine répondit. « De l'eau. Moi non plus, je suis pas venu les mains vides. Dans le sac de voyage, j'ai du bourbon. Du vrai, d'Écosse !» David s'étira, puis il replaça son sac et dit « On s'arsouillera tranquille une fois à la maison. Tu es prêt ?» Mais de retour à la maison, la tranquillité n'était pas de mise. Il y a Serge de la DDE qu'ils ont récupéré en route, tanké dans une congère avec son tracteur de déneigement. Il ne tient pas en place, sa femme est sur le point d'accoucher et aucune ligne téléphonique ne fonctionne. Il décide de reprendre la route pour chez lui et, David, de l'accompagner. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque c'est la nuit du grand déneigement de son ciel. David ira au bout de ses inquiétudes et parcourra de nombreux kilomètres, seul, la neige aux genoux, pour prendre des nouvelles de ceux à qui il tient. C'est seulement au petit matin, lorsque le soleil éclaire timidement sa vallée, que David rentrera, épuisé. Ce roman est une balade en pleine nature qui nous permet de visiter les tréfonds d'un homme rude à la tâche, mais tellement tendre à l'intérieur. Un petit roman d'à peine 150 pages à découvrir de manière bucolique.
L'actu des bibliothèques.
Les risques liés au Covid-19 obligent vos bibliothèques et vos médiathèques à rester fermées au public. Pour plus d'informations, vous pouvez les contacter par téléphone. Continuez de farfouiller dans vos bibliothèques personnelles. Vous trouverez encore un livre qui vous accompagnera le temps de ces fermetures.